Chapitre 2e. À la campagne comme à Paris, M. et Mme de Gueldre vivaient fort séparés. Souvent absents et toujours sortis, le marquis, pour ne pas passer une journée chez lui, allait, quand il avait épuisé la série des châteaux, n'importe où, à Auray ou même à Vannes. Elle, au contraire, ne sortait que pour se promener à cheval et en mer. Elle aimait l'exercice et le mouvement, mais elle avait horreur des déplacements et des visites. Elle recevait souvent, mais très peu de monde, et n'allait que chez quelques amis. Presque toujours d'une heure à 5 heures, on était sûr de la trouver peignant ou travaillant à des broderies étranges. On invitait à demeure, à Kildare, que des amis très intimes. On mettait à leur disposition les chevaux, les bateaux et le gibier, mais chacun vivait à sa guise, et les Gueldre ne se croyaient pas du tout obligés de s'atteler à leurs hôtes et de les ennuyer prodigieusement, en s'ennuyant prodigieusement eux-mêmes, ainsi que font habituellement les gens réputés de charmants maîtres de maison. Cette année, il y avait à Kildare M. Fauché, un vieux garçon grincheux, spirituel, insupportable et amusant, sorte de mélange bizarre de Gavroche et d'érudit. Madame de Chavannes, son fils et sa fille, d'aimables gens, Jacques de Boufflers, un cousin de la marquise, drôle, étourdi, tapageur, ahurissant et délicieux. Les voisins qu'on rencontrait le plus souvent étaient M. de Jardane et son neveu, le vicomte Jean de Guibray, qui habitait le château des Aunes, à 2 kilomètres de Kildare. Les Montreux, un jeune ménage très lancé et infiniment ennuyeux. La baronne de Lassigny, charmante femme de 50 ans, encore belle et toujours aimable. Et quelques hommes, jeunes et entre deux âges, messieurs de Dammartin, de Villiers-Nofle, Lagardy et de Jonzac.
Tiens, Liane, tu es là, dit Madame de Chavannes en entrant dans le hall. Tu n'es donc pas sortie à 5 heures comme à l'ordinaire?
La marquise, qui lisait étendue de tout son long sur une grande banquette de bambou, s'était dressée brusquement en entendant entrer quelqu'un. Quand elle vit qui entrait, elle se recoucha en disant
« Ah, ce n'est que toi, Hélène. J'ai eu peur.
De quoi?
D'une visite.
Comme on me reproche déjà de manquer de tenue quand je suis correctement assise, qu'est-ce qu'on dirait, Seigneur, en me voyant étendue là-dessus comme une couleuvre au soleil ?» Puis, répondant à la question de son amie,
je ne suis pas monté à cheval parce qu'il fait trop chaud. L'idée de mettre une amazone ou n'importe quel vêtement collant m'a effrayé.
Mais tu vas être obligé de t'habiller pour dîner.
C'est vrai, et ça m'assomme.
Tu aimes ça, toi, le monde?
Mais oui.
Et Madame de Chavannes, une femme de 40 ans, blonde, rose, encore très belle, infiniment élégante et délicieusement pomponnée, ajouta en s'installant dans un grand fauteuil à bascule,
je l'aime pour moi, tant que je suis présentable. Après, je l'aimerai pour Yvonne.
Quel âge a-t-elle, Yvonne?
16 ans et demi, et Paul a 21 ans.
Si Paul était la fille et Yvonne le garçon, je pourrais être grand-mère.
Ce serait tout gentil.
Ça n'est jamais gentil d'avoir l'âge qui permet d'être grand-mère.
Tu ne t'en rends pas encore compte, ma petite Liane, mais tu verras quand tu en seras là.
Madame de Gueldre secoua, sans la soulever, sa tête ébouriffée.
Bon, qu'est-ce que cela me fait de vieillir? À quoi cela me servirait-il d'être jolie?
Pourquoi ce conditionnel? Tu es jolie.
Et si tu veux être franche, tu avoueras que tu le sais très bien.
Je sais très bien que je suis non pas jolie, mais gentille, que je plais, que je suis attirante.
Tu vois que je suis franche.
À la bonne heure.
Mais c'est comme disent les gens d'ici, du bien perdu.
Ça ne profite, ça n'a jamais profité à personne.
Allons donc, ton mari a été fou de toi.
Je l'ai cru, lui aussi.
Et depuis?
Demanda Madame de Chavannes, en regardant malicieusement la marquise.
Tu n'as jamais, je ne dirais pas distingué, mais remarqué personne?
Non.
C'est singulier,
car enfin, tu as été courtisé par des hommes qui méritaient bien une remarque.
C'est vrai.
Mais il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de les prendre au sérieux.
Quoi? Et je ne sais pas, moi. Quelquefois une impression que rien ne motivait. Quelquefois aussi, je ne sais quel détail grotesque. En commençant, c'était superbe, et puis, ça finissait ridiculement.
Comment cela? Tu sais l'histoire du gardien du château de Blois,
non?
Il explique pompeusement.
Ici, c'est la salle où le duc de Guise a été assassiné. Ici, c'est consommer le crime. À cette place, il a reçu le premier coup de poignard. Là, il est tombé pour ne plus se relever. Voici la cheminée où Henri III est venu se chauffer après le crime accompli. Ça, c'est l'armoire où ce que je mets mes balais.
Tu es bête.
Eh bien, on m'a toujours montré, attends, l'armoire où on met les balais.
C'est que tu t'es disposé à la voir.
Oh, tu n'es pas sentimental, toi.
Qui sait?
Monsieur de Mons prétend que j'aurai, tout comme une autre, ma petite passionnette.
Bernard?
Tiens, en voilà un qui est amoureux de toi, Bernard de Mons.
Et comme Madame de Gueldre ne répondait pas, elle reprit.
Ose dire que ce n'est pas vrai?
Tu n'en sais rien, peut-être.
Je le saurai que je ne te le dirai pas. Je n'admets pas que, quand on a eu affaire à des gens corrects, bien entendu, on ne garde pas un silence absolu sur ce genre de confidence.
Oh, tu es rigide.
Je suis discrète, tout simplement.
Ah,
dit Madame de Chavannes, qui se leva et alla vers la fenêtre. Voilà un invité qui arrive.
À 5h30, pour un dîner à 8h, tu rêves.
Dame, voilà une voiture qui sort de l'avenue, toujours.
Mon Dieu, c'est une visite, et par cette chaleur.
Moi, les visites, je les déteste encore plus quand il fait chaud.
Qui est-ce?
Un monsieur, que je ne connais pas, viens le voir.
Sans se décider à bouger encore, la marquise demanda.
Comment est la voiture?
Un petit boguet et un très beau cheval alezan.
Ah, c'est monsieur de Guibray.
Qu'est-ce que c'est que monsieur de Guibray?
Comment?
Tu ne le connais pas?
Ah non, c'est vrai. Il n'était pas là quand tu es venu l'année dernière. C'est le neveu du père Jardane et le futur propriétaire des aunes.
Allons, il faut cependant que je me lève pour le recevoir.
Paresseusement, elle se dressa, en bâillant de tout son cœur.
Est-ce qu'il est ennuyé, ce monsieur?
Demanda avec inquiétude Madame de Chavannes, qui se leva aussi, faisant un mouvement vers la porte.
Mais pas du tout. Veux-tu bien rester? Il est très gentil, au contraire. C'est moi qui suis un ours, voilà tout.
Tiens, Yvonne, viens donc, Yvonne.
Pourquoi te sauves-tu comme ça?
Une grande jeune fille, encore un peu maigre, mais très belle, qui passait en courant devant le perron, suivie de deux chiens, entra en ouragan dans le hall.
« Vous m'appelez, madame?
Où courais-tu si vite? »
« Je joue avec Toc et Blanc. »«
Eh bien, » dit madame de Chavannes, « retourne jouer avec Toc et Blanc. »
À présent, ils ont retrouvé leur maîtresse, et ils n'en viendront plus avec moi, maman. »
Et elle montra les chiens, d'affreux grands chiens déjà gandés, sans origine avouable, qui sautaient sur la marquise et la mangeaient de caresses. La porte du vestibule s'ouvrit, et un domestique introduisit le vicomte de Guibray. Les deux chiens se précipitèrent à sa rencontre, en faisant une épouvantable musique, à la grande joie d'Yvonne qui se mit ensuite à regarder le jeune homme avec l'insistance tranquillement effrontée des jeunes filles très naïves.
« Le vicomte de Guibray, » dit la marquise, le présentant à Madame de Chavannes et à sa fille.
« Madame de Chavannes, Mademoiselle Yvonne de Chavannes. »
Il salua et s'assit, un peu gêné par les regards qu'il sentait peser sur lui.
Regard pas bien intimidant d'ailleurs, car Madame de Chavannes et Yvonne l'examinaient avec bienveillance, et la marquise, distraite comme toujours, le voyait à peine.
Cependant, elle demanda
« Votre oncle va bien? Pourquoi n'est-il pas venu ?»«
Oh, vous savez, marquise, mon oncle fait rarement des visites. »
Madame de Gueldre répondit avec conviction
« Ah, qu'il a raison.
Et comme je le comprends, c'est si bête, les visites. Ça assomme ceux qui les font. Ça assomme ceux à qui...
Fit assez irrespectueusement Yvonne qui regarda la marquise en riant.
Madame de Gueldre s'arrêta court et rougit comme une petite fille. Mais le jeune homme n'avait rien remarqué. Un peu déconcerté de trouver les trois femmes réunies, désireux de produire son petit effet sur celles qu'il ne connaissait pas encore, il était préoccupé de ce qu'il allait dire et pas du tout de ce qu'on lui disait. Il resta une demi-heure et causa surtout avec Madame de Chavannes et sa fille. En se levant pour partir, il demanda à la marquise si elle voulait accepter une place dans la voiture de son oncle pour aller le lendemain à Elven, où l'on pouvait déjeuner.
« Mais est-ce que je vais à Elven, moi ?» demanda Madame de Gueldre.
L'idée de rester et de profiter d'une délicieuse journée de solitude lui était venue tout à coup.
« Comment ?» s'écria brusquement Madame de Chavannes.
« Mais certainement tu vas à Elven. »
Monsieur de Guibray reprit.
« Gueldre a dit hier que vous auriez de la peine à vous transporter tous. » Or, nous avons, ou plutôt j'ai, car bien entendu mon oncle reste paisiblement aux zones, deux places à vous offrir. Je n'emmène que Dammartin, et nous prenons le landau. »
La marquise hésita, cherchant un prétexte pour refuser.
« Mais combien sommes-nous donc? Il me semble qu'il y a plus de places qu'il n'en faut. Voyons, toi, Hélène et tes enfants, ça fait 3, Jacques, 4, Fauché, 5. Henri et moi, 7. Comment ?
Nous ne pouvons pas tenir 7 dans les 3 voitures.
Marquise, une de vos juments grises est boiteuse. Gueldre ne peut transporter que 5 personnes, 6 si on veut être horriblement mal.
Alors j'accepte. J'irai avec Jacques, ou avec ton fils, Hélène.
À quelle heure voulez-vous que je vienne vous prendre ?
Quand bon vous semblera.
À 10 heures, cela vous convient-il ?
Parfaitement.
Quand le vicomte fut sorti, Madame de Chavannes s'écria en riant.
« Eh bien vrai, tu les reçois froidement, les voisins qui viennent te voir. »«
Pourquoi dis-tu ça ? »
demanda la marquise, inquiète. « Est-ce que je n'ai pas été polie ?»«
Oh, polie, si, mais fraîche. Et il est charmant, ce monsieur. »«
Charmant ? Mais s'il fallait sauter au cou de tous les gens qui sont charmants. »
Et après un instant, Madame de Gueldre reprit.
« Charmant. Voilà un mot élastique. »
Pourquoi élastique ?
Mais parce que chacun lui donne un sens différent.
Ainsi pour moi, un homme charmant, c'est un homme qui serait...
Qui serait quoi ?
Et je ne sais pas trop, moi, qui serait très intelligent, rempli d'esprit, élégant, distingué, fin, très bien physiquement.
Et vous ne trouvez pas, madame, demanda curieusement Yvonne, que monsieur de Guibray soit tout ça ?
Dame, non.
Mais il faut dire que je ne l'ai jamais beaucoup regardé.
Madame de Chavannes se leva en disant
« Moi, je vais m'habiller. »« Vous ferez bien, car il doit vous falloir pour cela un temps considérable. »
gronda la grosse voix bien timbrée de M. Fauché, qui venait d'entrer par le perron.
« Hélas, j'en vais faire autant, »
dit la marquise en s'étirant d'un air ennuyé.
« Oh, vous, pour la peine que ça vous donne. »
Madame de Gueldre protesta.
« Comment, comment, la peine que ça vous donne, mais ça m'en donne beaucoup. »
Fauché haussa les épaules.
« Allons donc. »
Madame de Chavannes s'habille consciencieusement, elle, trop même.
« Monsieur Fauché, s'écria Madame de Chavannes qui riait, commence déjà à nous dire des choses désagréables. Elle n'est entrée que depuis 3 minutes. »
La marquise répondit.
« Naturellement, il n'est entré que pour cela. »«
Je ne dis pas de choses désagréables, » rectifia Fauché, en s'allongeant dans le fauteuil que Madame de Chavannes venait de quitter. « Je dis des choses vraies, car enfin, je ne pense pas que vous ayez, vous, la belle Hélène, la prétention de...
« D'abord, je vous défends de m'appeler la belle Hélène.
Vous avez tort.
Vous méritez ce surnom,
que tout le monde vous donne d'ailleurs.
Enfin, je reprends.
Vous n'avez pas, vous, Madame de Chavannes, la prétention de nous faire croire que vous troussez en un tour de main les harmonieux fouilles de dentelles, de plumes, de rubans et de toutes espèces de choses destinées à nous éblouir. Tout ça, tripatouillé, si j'ose m'exprimer ainsi, avec un soin extrême. On voit que vous daignez attacher quelque importance à la vie de vos humbles admirateurs. Vous leur faites les honneurs de vos charmes, avec beaucoup de grâce, et un tantinet de coquetterie. Enfin, vous faites ce que toute femme, vraiment femme, doit faire.
« Et moi ?» demanda Madame de Gueldre.
« Oh, vous !»«
Vous habillez pour vous cet enfilé, bas comme je te pousse, une housse, car on ne peut pas même dire une robe, invariablement blanche. L'été, la housse est en mousseline ou en crêpe de Chine. » L'hiver, elle est en pluche ou en velours. Selon les circonstances, elle est plus ou moins décolletée, et elle a des manches ou elle n'en a pas. Mais à part ça, c'est toujours la même housse.
Et voyant que la marquise riait,
« Ah oui, je vous conseille de rire. Et par là-dessus, des coiffures sans nom. Que vous devez faire en secouant votre tête, tout simplement, que vos cheveux tombent bouclés sur le dos. Car vous n'avez même pas le mérite de les friser, ils frisent tout seuls. Ou avec votre poing. » quand ils font sur le haut du crâne l'affreuse petite houppe que vous avez dans ce moment-ci.
Avez-vous fini ?
Non. Je ne vous ai jamais vu vous habiller, mais je parierais bien que vous ne mettez pas de corset. Vous avez une façon de vous tortiller sur les meubles et de ramasser les balles de tennis sans plier les genoux, en vous cassant en deux, pan, d'un coup sec.
Vous ne pourriez jamais le faire avec un corset.
Je la connais. La révérence qui est la façon de se baisser des femmes corsetées. Quand une femme laisse tomber son mouchoir, je fais toujours celui qui regarde de l'autre côté, moi. Ça m'amuse de voir comment elle le ramasse.
Est-ce tout ? Puis-je aller enfiler ma housse blanche, sans manches, ce soir, puisqu'il y a du monde ?
Fauché se leva d'un bond.
Du monde, je l'avais oublié. Et vous êtes là, à me faire perdre mon temps. Mais moi aussi, il faut que je m'habille.
Moi aussi. « Attendez-moi, mon bon oncle, je monte avec vous !»
cria la petite de Chavannes en s'élançant à la poursuite de Fauché, suivi de sa mère et de la marquise. Elle et son frère avaient pris l'habitude d'appeler « mon bon oncle »
le vieux garçon qui les accablait de taquineries, de conseils et de réprimandes, et qu'ils adoraient néanmoins. Ils ne pouvaient plus se passer des grogneries incessantes de l'oncle, et quand, occupé ailleurs, il leur laissait par hasard un moment de repos, ils se mettaient à sa recherche et le harcelaient jusqu'à ce qu'il eût repris ce qu'ils appelaient sa vraie nature. On entendit la voix de Paul de Chavannes dans l'escalier, puis les éclats de rire d'Yvonne, les grognements de l'oncle, le bruit d'une course folle et de glissade dans les corridors, puis tout rentra dans le calme jusqu'à l'heure du dîner. À 8 heures moins quelques minutes, personne, sauf Fauché, n'était encore prêt, et quand la baronne de Lassigny arriva, ce fut lui qui la reçut. Aussi accabla-t-il de reproches monsieur et madame de Gueldre. Villeneuve, Lagardy et Dammartin arrivèrent ensemble exactement à l'heure. Il ne manquait plus que les Montreux. Tout à coup, Fauché, qui faisait les 100 pas dans le salon, s'arrêta devant monsieur de Gueldre et lui mettant sous le nez sa montre, qu'il venait de regarder pour la 10e fois, « Henri, tu sais qu'il est 8h15 ?»«
Oui, dès que les Montreux seront là, nous dînerons. On n'attend plus qu'eux. »«
Ah, on les attend alors. Mais, dame, et s'ils viennent à 9h ?»«
Ils ne viendront pas à 9h. »«
Qu'est-ce que tu en sais? Ils sont si bien élevés. »
« Mon Dieu !» dit la marquise. « Quand il faut faire 3 lieues en voiture, on ne peut pas toujours arriver à l'heure. »
Fauché se hérissa. « Et pourquoi, je vous prie, ne peut-on pas arriver à l'heure? Il suffit de partir à temps. »«
Sans doute.
Il y a ça, mais enfin, il faut un peu d'indulgence. »«
De l'indulgence? Et pourquoi donc en aurais-je de l'indulgence? Comment ?
Voilà 2 morveux qui font attendre. »«
Oh, 2 morveux, Montreux à 38 ans. »
« Eh bien, c'est un vieux morveux, voilà tout, qui font attendre 5, 7, 10 personnes, lesquelles, sauf moi, sont trop bien élevées pour crier qu'elles meurent de faim. Et parmi ces 10 personnes est madame de Lassigny, dont le grand âge exige des ménagements, » fit en riant la baronne.
« Vous riez. Eh bien, moi, je ne trouve pas ça drôle du tout. Que la petite de Montreux se permette de vous faire attendre, c'est tout de même raide, d'autant plus qu'elle le fait exprès, vous savez. » Elle prépare son entrée.
« Oh, croyez-vous ? »
demanda madame de Chavannes. « Je sais bien qu'elle est peu affolée de chic, mais enfin. »
Fauché mourait de faim. De grincheux, il devint féroce.
« De chic ? Mais elle n'en a même pas de chic. Elle s'habille mal. Elle a toujours l'air parée et pas jolie avec cela. »
Paul de Chavannes protesta.
« Oh, pas jolie. »
Furieux, l'oncle se retourna.
« Non, pas jolie. Des petits yeux bridés. » Des lèvres pâles, quand même, malgré le rouge qui les peinturlure, des dents douteuses, une taille.
Oh, quant à ça, charmante la taille,
interrompit madame de Gueldre.
Allons donc, elle est mince de profil et large de face, et plate et raide, avec ça, prétentieuse autant qu'on peut l'être. Elle vous parlera du roman de Maupassant qu'elle n'a pas lu, ou de celui de Bourget qu'elle n'a pas compris, quand il serait si simple de se taire. Ou d'avouer qu'elle ne lit et ne comprend que Georges Honnet.
Mais, observa doucement madame de Gueldre, la littérature n'est pas précisément la spécialité des Montreux.
Et quelle est-elle, je vous prie, leur spécialité?
C'est pas le cheval, toujours. Au poteau, quand il n'y a pas trop de monde, ça va encore, à peu près. Mais à la chasse, ils font peine à voir. Et l'est, lui avec ses jambes raides et écartées, elle avec sa taille plate, on dirait une pelle et une pincette.
« Eh bien, mais, fit remarquer madame de Gueldre, il me semble que si, comme tu le disais tout à l'heure, la petite de Montreux prépare son entrée, toi, tu la soignes. »«
Avec tout cela, il est 8h30, » dit rageusement Fauché, qui alla s'asseoir.
« Ils ne viendront peut-être pas du tout, d'ailleurs. »
Et après un silence, il ajouta, « Puisque vous n'avez pas invité Guibray,
je ne l'ai pas invité, parce que je n'y ai pas pensé, tout bonnement. »
Madame de Chavannes avait dressé l'oreille. Elle demanda
« Pourquoi, monsieur de Guibray, est-ce que… »
« Oui, » affirmèrent ensemble, d'un air discret, Villeneuve, Lagardy et Dammartin.
« Qu'est-ce que vous en savez ? » s'écria la marquise, que les potins exaspéraient, et se tournant vers son mari.
« À propos, il est venu, monsieur de Guibray.
Quand ? »
« Mais tout à l'heure, avant le dîner. »
« Et vous n'avez pas eu l'idée de lui demander de rester ? » ?»«
Ma foi, non. »
« Je n'y ai pas pensé, moi non plus. »«
Ce pauvre Guibray, » dit Jacques de Boufflers d'un air mélancolique.
« On ne m'a pas l'air de penser souvent à lui dans cette maison. »«
Il est cependant charmant. »«
Moi, je l'aime beaucoup, »
déclara madame de Lassigny.
Vois-tu ce que je te disais, Liane ? S'écria Madame de Chavannes d'un ton de reproche. La marquise répondit : Voilà à présent que j'ai non seulement oublié d'inviter à dîner M. de Guibray, mais qu'encore j'en ai mal parlé, paraît-il. C'est sans m'en douter, car vraiment.
Je ne dis pas que tu en as mal parlé, mais tu as parlé de lui sans enthousiasme.
Ça, c'est possible. D'abord, je ne m'enthousiasme pas facilement. Ensuite, j'avoue que M. de Guibray n'a pas produit sur moi un effet foudroyant. Je le connais depuis. Ma foi, je ne sais pas au juste depuis combien de temps je le connais. Je l'ai vu quelquefois, mais sans intimité. Enfin, je ne saurais pas dire exactement de quelle couleur sont ses yeux, ni de quel genre est son esprit, s'il en a.
Bref, expliqua Jacques de Boufflers, il a produit sur vous ce que nous appellerons un effet gris.
Mon Dieu, oui, mais je n'ai rien dit de désagréable. Hélène a déclaré après son départ qu'il était charmant. J'ai demandé, est-il charmant ?
Tout disposé à me laisser convaincre.
Moi, dit Dammartin, je le trouve très joli garçon, Guibray.
Madame de Gueldre se mit à rire.
Oh, c'est mauvais signe. Quand un homme en admire un autre, c'est qu'il le considère comme peu dangereux.
À cet égard, quoi qu'on en dise, les hommes sont beaucoup plus mesquins et envieux que les femmes, ou du moins, ils dissimulent moins habilement leur mesquinerie et leur envie.
Ce qui est certain, déclara Villiers-Nofle, c'est que Guibray a du chic.
Madame de Gueldre se récria.
Ça non, par exemple.
Ah, qu'est-ce que vous lui reprochez ?
Ses costumes. Je les ai remarqués. S'il avait 20 ans, il pourrait, à la rigueur, s'habiller comme il fait. Étant donné qu'il a mauvais goût, mais à son âge, c'est ridicule. Et puis cette façon qu'il a de donner les titres, soit en parlant des gens, soit en leur parlant à eux-mêmes.
La petite de Montreux aime ça,
grogna Fauché. La marquise haussa les épaules.
Encore, vous ne pouvez pas parler sans dire des méchancetés, vous.
Et comme l'oncle, qui tournait le dos à la porte d'entrée, se disposait à répondre, Madame de Gueldre lui dit en passant rapidement devant lui,
taisez-vous donc, la voilà.
Enfin, grommela Fauché, c'est pas malheureux, à 9h20.
Et il se décida à remettre sa montre dans sa poche.
Les Montreux entraient aussi tranquilles, aussi souriants que s'ils eussent été à l'heure. Lui, grand, trop élégant, l'air ennuyé et ennuyeux. Elle, petite, brune, remuante, très jolie, mais écrasant un peu sa toute petite personne sous un écroulement de ruches, de broderies et de fleurs. Comme on annonçait le dîner avant même qu'elle se fût assise, elle demanda « Est-ce que nous sommes en retard ?» Et sans attendre la réponse, elle ajouta en minaudant « Je parie que vous en avez profité pour dire du mal de moi. »
Fauché répondit d'un air bonhomme.
« Pas du tout. Nous parlions de Guibray,